Maintenant, c'est l'automne. Et Carmel vient de s'apercevoir qu'elle ne joue plus à être heureuse. Elle est heureuse. Il y a en elle, tout au fond, une place sensible, le souvenir de Jacques. Cet espoir et cette trahison. C'est comme une plaie, mais si bien refermée qu'il faut mettre le doigt juste dessus pour en souffrir. Et c'est peut-être cette présence qui donne tout son prix au reste. Elle est heureuse d'un calme bonheur, de ce bonheur qui est juste ce matin à la mesure éclatante du beau matin d'octobre. À travers le feuillage de bronze du sorbier, le ciel s'arrondit sur la combe sans une fêlure. Depuis quelques jours, les journaliers ont quitté le domaine et le silence est revenu, le beau silence paisible d'arrière-saison. Une brise légère vient de faire chanter les feuilles du sorbier. Sous la terrasse, dans la vigne, une grive a sifflé. Carmel s'est mise debout et s'étire, heureuse à pleine peau. Martha, qu'elle a prise maintenant à son service, commence à dresser la table sur la terrasse. Un moment, Carmel la regarde faire. Il y a en elle, malgré l'habitude qui commence à lui venir, une espèce de rire incrédule. Devant la nappe aux grands carreaux de couleur, devant les assiettes fines, la bouteille poussiéreuse, la cruche où l'eau rafraîchie met une buée, elle pense au vallon, au déjeuner de son enfance, au quignon de pain dur mangé en face d'Angelin. Elle regarde Martha aller et venir. Tant de fois l'envie lui est venue de lui arracher les choses des mains, de faire à sa place et mieux qu'elle ce travail qui lui coûterait si peu. Mais voilà, et elle rit à fond de gorge, se caressant à ce rire comme une chèvre à une muraille. Mais voilà, maintenant, elle est Mademoiselle Beaumont. Elle s'est détournée, en quelques pas, et il y a maintenant dans son allure une aisance nouvelle. Elle a franchi les rochers qui séparent la terrasse du bassin. Elle a disparu derrière les peupliers qui le bordent. Dans sa margelle de pierre, l'eau joue avec quelques feuilles jaunes, toutes pétillantes d'éclats de soleil. La solitude. Le silence ensoleillé. Et cette pureté de l'automne. Sans une hésitation, juste un rapide regard circulaire, sa robe tombée à ses pieds, elle a sauté à l'eau. Sa baignade méridienne lui est vite devenue nécessaire. Obscurément, avec le besoin confus de se laver, de dépouiller la vieille peau, cela représente pour elle une communion, offrande et accueil avec les éléments. Une façon de se livrer mieux à la joie physique de vivre. La flamme pâle des peupliers et la fraîcheur de l'eau, ces lames d'eau plus fraîches et dessinées comme des muscles, le roux somptueux des arbres du vallon et cette tiédeur que l'on surprend à croiser ses cuisses dans la profondeur de l'eau, une tiédeur étrangère et douce comme un cadeau, le silence souverain, ce silence découpé juste à la mesure de la combe, et la course chaude du sang au profond de la chair. Tout cela chante ensemble et se compose comme des voix d'un cœur lointain. Accrochée d'un bras au rebord de pierre, la face au ciel, elle se laisse flotter, offerte tout entière. Couverte et pénétrée de soleil, une lueur rouge sous les paupières, caressée par les franges de l'eau en mouvement. Elle n'est plus qu'un peu de chair, un peu de sang, une tiédeur à la surface de l'eau. Elle est silence au fond du silence. Éclat de lumière dans le soleil, feuilles bercées parmi les feuilles flottantes, un peu d'écume au bord de l'eau, à peine vivante, retournée aux éléments, cœur à peine battant d'un monde qui vient de retrouver la pureté originaire. Et si vivante, soudain, éveillée, une brise a frémi dans le feuillage, ridé l'eau immobile, fait frissonner la peau hâlée, si vivante, surgit debout sur le rebord de pierre, ruisselante de perles, mince et solidement attachée à la terre, souple et dure, prenant ici tout son sens, faite pour se couler dans le vent et dans la force des rivières et au profond des alliés, sous son casque luisant de cheveux, dorée tout entière comme une alberge mûre et si chaude de sang qu'elle est déjà sèche sous le soleil. En se retournant pour prendre son vêtement, elle a surpris un frémissement dans le taillis de chêne qui domine le bassin. Elle a eu le temps de deviner un visage qui s'effaçait. Redressée, sa robe en boule dans la main, elle s'étire longuement face au soleil et un rire secret vient aiguiser son visage. Puis elle est de nouveau enfermée dans sa robe et il semble tout à coup que les feuilles et que l'eau ont perdu leur lumière. Elle a regagné la terrasse où Martha, chantonnant une chanson sarde, achève de dresser la table. Alors, dans le taillis qui domine le bassin, Gino se lève et disparaît sous les arbres, silencieux, comme une fumée sur ses sandales de corde.